Je vous invite à suivre l'émission Dialogue entre Congolais avec Alain Hirung.
Bonsoir et bon début de semaine à tous. Rentrée judiciaire samedi dernier à Kinshasa. Dans son exposé, le procureur général de la République a souligné l'importance de la lutte contre le blanchiment des capitaux. Le premier président de la Cour suprême de justice s'est quant à lui penché sur la notion d'erreur matérielle en ce qui concerne les élections. Le bâtonnier national a pour sa part appelé le corps judiciaire à la prise de conscience. Quelle analyse faire de cette rentrée judiciaire? Où en est-on à ce jour avec le processus de la réforme de la justice en RDC? Pour en parler, nous recevons le professeur Chibangu Kalala, professeur de droit international à l'Université de Kinshasa. Il est avocat au barreau de Kinshasa et de Bruxelles. Professeur Chibangu, bonsoir.
Bonsoir, Alain.
Maître Jean-Joseph Mukindi wa Mulumba, avocat près la Cour suprême de justice, ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats. Maître Mukindi, bonsoir.
Bonsoir.
Il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Lui, c'est Maître Kalala Mwenampala, coordonnateur de la cellule chargée de la réforme au cabinet du ministre de la Justice. On me signale qu'il est en ligne. Maître Kalala, bonsoir.
Bonsoir.
À tous, merci de votre attention et bienvenue dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Avant d'aborder le sujet de ce soir, prenons d'abord ce petit mot qui vous est adressé à vous, nos auditeurs et nos internautes. Vous le savez, Dialogue entre Congolais avait initialement prévu de parler ce soir de la non-validation du mandat de 7 députés nationaux de Massissi suite à une motion incidentielle du député José Makila à la plénière de vendredi dernier. Étant donné que cette question a été renvoyée à la commission politique, administrative et judiciaire de l'Assemblée nationale qui ne s'est pas encore prononcée, la rédaction de Radio Okapi a estimé nécessaire, compte tenu de l'importance du sujet, de le surseoir. Veuillez nous en excuser, nous y reviendrons. Revenons à présent à notre sujet de ce soir. Lutte contre le blanchiment des capitaux, c'est le thème de l'exposé du procureur général de la République lors de la rentrée judiciaire organisée samedi dernier ici à Kinshasa. Dans sa dissertation, le premier président de la Cour suprême de justice s'est penché pour sa part sur la notion d'erreur matérielle en ce qui concerne les élections. Le bâtonnier national, quant à lui, a appelé le corps judiciaire à la prise de conscience. On écoute Maître Matadi Wamba, bâtonnier honoraire, qui s'exprime sur la lutte contre le blanchiment des capitaux. Il est au micro de Berry Franklin Luchaka.
La mercuriale du procureur général de la République, c'est un exercice auquel le procureur général nous a conviés pour attirer l'attention de tous les Congolais sur un problème important. Notre pays a adhéré à tous les dispositifs mis sur pied pour combattre le blanchiment. Beaucoup de gens ne le savent pas. C'est à cet exercice que le procureur général de la République nous a conviés en nous expliquant ce que c'est le blanchiment d'argent et ce qu'il faut faire pour combattre ce fléau.
Est-ce que ça ne risque pas d'être un slogan vide?
Voyons voir.
Notez que le président de la République a été représenté à cette manifestation par le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minaku. Maître Kalala Mwenampala, vous êtes coordonnateur de la cellule chargée de la réforme au cabinet du ministre de la Justice. Quelle analyse vous faites de cette rentrée judiciaire?
Merci beaucoup. Vous savez que c'est prévu par la loi qu'ils prennent la parole à la rentrée judiciaire pour donner certains points de vue sur certaines questions qu'ils estiment importantes pour la marche de la profession. La rentrée judiciaire de la semaine passée, je pense que les thèmes qui ont été abordés sont importants pour chacune des autorités judiciaires et l'autorité ordinale du barreau. Mais, à mon point de vue, s'agissant de la première intervention, j'avais estimé que on aurait dû aborder le problème de blanchiment plutôt des faux droits, des fausses qualités que certains avocats et magistrats consignent dans leurs œuvres professionnelles pour pouvoir porter atteinte au bien des paisibles citoyens ou de paisibles, comment dirais-je, sociétés. Pourquoi je le dis ? Parce que le blanchiment lui-même est une infraction contre la monnaie, contre la circulation de la monnaie, et même c'est un acte malhonnête qui doit être combattu. Le procureur général a été brillant, le procureur général de la République a été brillant là-dessus, mais du point de vue de la réforme, il faudrait, à mon point de vue, qu'on aille plus loin, qu'on aille au-delà du blanchiment des capitaux, qu'on aille jusqu'à atteindre le blanchiment des faux droits, des fausses qualités, par ceux qui sont chargés de protéger la population contre, justement, des faux droits que l'on blanchit par des décisions judiciaires. Donc voilà un peu un parallélisme que je fais. En tant que chargé de la réforme, je crois que notre justice gagnerait si ce blanchiment des capitaux se transporte sur le terrain judiciaire pour pouvoir combattre le blanchiment des faux droits, des fausses qualités qui sont utilisées dans les jugements, dans les arrêts, dans les conclusions, dans les notes de plaidoirie des avocats. Et je pense que, dans le cas du bon fonctionnement de la justice, c'est un objectif que nous devons poursuivre tous en tant que membres du corps judiciaire. S'agissant plutôt du premier président de la Cour suprême, j'ai apprécié son intervention parce que les erreurs telles qu'il a abordé le sujet jusque à rechercher les cas dans plusieurs législations, je pense que son intervention a pu inspirer la commission, la cellule qui est chargée de la réforme, et on tiendra compte de cela. S'agissant du bâtonnier national qui a fait appel à la conscience des avocats et des magistrats, je pense que pour la réforme, pour la cellule de réforme, ça a été un encouragement parce que, justement, si l'on veut réussir le bon fonctionnement de la justice, il faudrait que les avocats et les magistrats prennent conscience de ce qu'ils ont prêté serment, un serment bien précis, de respecter la Constitution, de respecter les lois de la République démocratique du Congo, et évidemment de suivre les recommandations, autres recommandations du chef de l'État à la matière, et les recommandations du cardinal Mosengo lorsqu'il dit aux Alizuzi Telemerungenge Namwinda Mwakristo Katamakamunandenge Mibe Komitindi.
Alors Maître Kalala.
Oui.
Juste en un mot, peut-on dresser un petit bilan de la rentrée judiciaire passée à celle-ci? Peut-on dresser brièvement un bilan de la justice congolaise pendant ce temps? Brièvement, je vous en prie.
Vous savez que les interventions qui sont enregistrées lors de la rentrée judiciaire, elles sont tout à fait théoriques. Et dans le cas de la réforme, le bilan peut être celui-ci, c'est que les acteurs du monde judiciaire ont encore beaucoup à faire. Ils doivent plus penser à leur serment à chaque fois qu'ils posent un acte Et je peux dire que jusqu'à présent, on n'a pas encore atteint la moitié de ce qu'on devait être.
Merci.
Comme serviteur judiciaire de la loi.
Merci, Maître Kalala Mwenampala. Maître Jean-Joseph Mukendi, vous êtes avocat près la Cour suprême de justice, ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats. Comment vous analysez cette rentrée judiciaire?
Eh bien, je voudrais faire mienne les réflexions que mon confrère Maître Kalala vient de faire, parce que en fait, il faut dire que, comme il l'a très bien dit, la rentrée judiciaire doit être l'occasion pour le premier président de pouvoir faire un commentaire sur un arrêt de droit important qui fait avancer le droit. Et pour le procureur général de la République, il prononce sa mercuriale sur les problèmes donc du moment. Et le bâtonnet national donne aussi une appréciation de l'avocat qui est un opérateur important de la justice comme il a voulu le faire. Et je dois dire que la rentrée judiciaire, donc, non seulement une fonction un peu académique, puisqu'il y a des analyses de droit qui peuvent aider les praticiens de droit que nous sommes, mais l'avantage de cette rentrée, dans les thèmes qui ont été choisis, il n'y a pas que ce caractère seulement académique, l'avancée de la théorie du droit, l'avancée de la jurisprudence. Mais il y a surtout ce que nous avons beaucoup apprécié, le caractère pratique des thèmes abordés. Et j'ai aussi beaucoup aimé tout à l'heure l'interdépendance que Maître Kalala a fait ressortir entre les trois communications, en ce que, au-delà de tout cela, nous cherchons le bon fonctionnement de la justice. Et là, je crois que le thème du blanchiment de l'argent était un thème très important, car on ne l'a pas suffisamment souligné. On semble dire que nous sommes la RDC, la plus grande plateforme de blanchiment d'argent, avec tout comme l'a dégagé le procureur général de la République, avec la convoitise dans les milieux miniers, avec le dysfonctionnement de l'État. Et je crois que cela n'est pas du tout de notre, pour nous, pour notre pays, ni pour notre avenir, ainsi de, disons, nous pouvons dire, un leadership enviable. Au contraire, je crois que nous devons être les premiers à combattre ce fléau, par ce blanchiment qui est tellement important, profite à qui? Et je veux même dire, par contre, détruit l'économie du pays, détruit notre pays, nous avons la fausse monnaie. J'étais dernièrement dans une banque de la place, une banque importante, j'ai retiré le montant pour un client, et arrivé, j'ai constaté que dans les billets qui m'avaient été donnés, il y avait un faux billet de $100 obtenu dans une banque de la place. Évidemment, quand on a compté, il était difficile de voir que tel billet était un billet faux, mais manifestement, le billet était faux. Ce sont des faits très graves dans un pays. Et là, quand je vous parle, j'ai retiré pas dans une petite banque, dans une grande banque de la place, très connue. Et malheureusement, cela reflète l'état d'esprit. C'est là où le blanchiment est en train de détruire l'économie, détruit la vie sociale, détruit le crédit qui est l'essence même de la justice, et de sorte que il est important de pouvoir combattre, non seulement par les voies légales, mais par les voies pratiques.
Maître Mukendi.
Oui, je vous en prie.
Alors, quand le premier président de la Cour suprême de justice fait sa dissertation sur les erreurs matérielles, de votre point de vue, cela a-t-il apporté un plus au contentieux électoral en RDC?
Vous savez, le contentieux électoral, le premier président a choisi juste un pan. Mais on aurait bien voulu qu'éventuellement, moi j'ai une vue beaucoup plus critique, si on devait réellement analyser le contentieux électoral en RDC, il y aurait beaucoup plus de choses à dire que la simple erreur, les simples erreurs matérielles que le premier président a relevées. Donc, mais vous, comme vous savez, une rentrée judiciaire, il choisit un thème déterminé. Et le thème donc de l'erreur judiciaire, l'erreur donc matérielle, ce n'est pas typique aux élections, au contentieux électoral, c'est typique pour toutes les matières du droit. Mais donc là, je crois que c'est une dissertation qui avait sa valeur, mais quelque part, nous sommes restés sur notre sort parce que le plus important, c'est le débat sur le contentieux, sur la façon dont le contentieux électoral est mené ici, et a été mené notamment par la Cour suprême de justice essentiellement. Et je crois que là, il y aurait beaucoup plus de choses à dire que ce que le premier président lui-même a dit.
Professeur Tshibangu Kalala, vous êtes professeur de droit international à l'Université de Kinshasa, avocat au barreau de Kinshasa et de Bruxelles. Professeur, que peut-on retenir sur la rentrée judiciaire de manière pédagogique, disons? Professeur Tshibangu. Voilà, nous avons quelques soucis avec la ligne du professeur Tshibangu Kalala. La réalisation va tenter de le retrouver. Maître Kalala Monampala, en parlant de la prise de conscience des avocats et des magistrats, souvent quand on parle de la réforme ou de la justice en RDC, on indexe plus les magistrats, mais les avocats ont leur part également dans cette affaire.
Oui, effectivement. Premier, je peux dire même premier pilier de la justice. Les avocats doivent se souvenir ou avoir comme médaille au moment où ils entrent dans le palais de justice le serment qu'ils ont prêté devant la cour. Les magistrats, à leur tour, lorsqu'ils entrent dans la salle, ils doivent être munis de leur serment. Les magistrats d'un certain niveau, le serment devant la Cour, et ceux qui sont au parquet général de la République et à la Cour suprême, ils doivent se souvenir du serment qu'ils ont prêté devant le magistrat suprême. Donc, chacun doit évoluer à travers son serment. Mais malheureusement, nous constatons que, à ce point de vue, le comportement des avocats perturbe justement, et je le dis en connaissance de cause, le fonctionnement de la justice, en ce que beaucoup d'avocats viennent avec des tromperies, viennent avec des faux droits, avec des fausses qualités de leurs clients qu'ils convoient devant le juge, afin que le juge les transforme en termes de jugement et que le lendemain, le jugement soit brandi devant tout le monde avec au frontispice de ce jugement le nom du chef de l'État pour pouvoir donner plus de force à la tromperie qui est couverte par l'œuvre du juge. Et ça, c'est très grave et c'est dangereux pour le développement du pays et pour tous les citoyens qui habitent ce pays, qu'ils soient étrangers ou congolais. Donc, à ce point de vue, l'avocat doit se remettre en question et se remettre sous le serment pour pouvoir aider la justice. Et le juge, le magistrat du parquet, ne doit pas utiliser des artifices, il doit faire appliquer la volonté du législateur. C'est à ce moment-là que nous pouvons dire que notre justice fonctionne comme on le veut par le constituant.
Merci Maître Kalala. La réalisation me fait signe que le professeur Tshibangu est de nouveau en ligne. Professeur Tshibangu, vous nous suivez?
Oui, je vous suis très bien.
Merci professeur. Je vous demandais tout à l'heure ce qu'on peut retenir sur la rentrée judiciaire de manière pédagogique pour nos auditeurs.
Oui, merci Alain Longo pour m'avoir invité à cette émission. Je tiens d'abord à saluer mes deux confrères, le bâtonnier Mukendi, qui a été mon bâtonnier quand je prêtais serment comme avocat stagiaire, celui qui m'a accueilli au barreau de Kinshasa.
Professeur.
Et le confrère Kalala.
Professeur.
Maintenant.
Professeur Tshibangu. Je vous prie de m'excuser, professeur, si c'est possible de vous éloigner de la radio à côté de vous, de l'éteindre pour empêcher le retour qu'on entend à l'antenne. Je vous en prie.
Oui, c'est fait.
Merci, vous avez la parole.
Oui. À propos de la rentrée judiciaire, du week-end dernier. Mes deux prédécesseurs ont déjà dit l'essentiel. En ce qui concerne l'intervention du procureur général de la République qui a attiré mon attention, c'était une intervention très très importante. Le blanchiment de l'argent sale à travers le monde, c'est un fléau. Il y a des législations à travers le monde pour combattre ce fléau. Et aussi dans notre pays, récemment, il y a une législation en la matière. Mais pourquoi on combat le blanchiment de l'argent? En plus de ce qui a été dit par mes prédécesseurs, il faut souligner que le blanchiment de l'argent constitue un danger sérieux pour la sécurité de l'État. Imaginez-vous dans un pays comme le nôtre, si des bandits et des voyous de tout genre, ils vont vendre la drogue à travers le monde, ils viennent avec des millions et des millions de dollars qu'ils vont blanchir dans notre économie. Et donc l'économie sera entre les mains des voyous et des bandits qui demain vont être puissants et forts, qui vont commencer même à combattre l'État, qui vont essayer d'acheter les autorités de l'État. Et finalement, c'est eux, à cause de leur puissance financière, ils vont finalement diriger le pays. Et donc des voyous qui vont diriger le pays, parce qu'ils vont acheter tout le monde, avec de l'argent sale. Et donc c'est un fléau qu'il faut absolument combattre pour la souveraineté de l'État, pour la prospérité de l'économie, pour la sécurité de la population, il faut absolument mettre hors d'état de nuire tous les voyous, les criminels qui vont s'enrichir de manière malhonnête dans le cadre du crime organisé et qui vont ainsi mettre à genoux les États africains qui sont déjà faibles et en particulier notre propre pays. Donc, le procureur général de la République a très bien fait de sensibiliser la communauté internationale, parce qu'il s'agit de notre pays, sur ce danger, pour que tous nous puissions être vigilants et ne pas permettre à ce que des voyous viennent s'enrichir dans notre pays en blanchissant de l'argent sale. Ça, c'est très important. Maintenant, il y a l'intervention du bâtonnier national. Je vais dire un mot à ce sujet. Maître Akalala l'a déjà relevé. Mais vous savez, Monsieur Alain Hirung, pour les audios de Radio Okapi, dans la pratique, et très souvent, on est en train de taper sur les magistrats. On est en train de dire que ce sont les magistrats qui sont les démons, c'est surtout eux, si ça ne marche pas avec notre système judiciaire, c'est à vous les magistrats. Mais on oublie très souvent que les avocats jouent un grand rôle, ils ont leur part de responsabilité dans la dégradation de l'appareil judiciaire de notre pays. Les avocats se comportent très mal, nous devons absolument balayer devant notre propre maison. Ce soir, il y a 3 avocats qui s'expriment sur la radio Okapi. Nous devons balayer devant notre propre maison avant de pouvoir s'en prendre aux magistrats. Tous les jours, les avocats sont en train de torpiller la loi, de torpiller le gouvernement de la justice en introduisant des recours abusifs juste pour faire plaisir à leurs clients. Beaucoup d'avocats, malheureusement, sont devenus des garçons de course de leurs clients à qui ils obéissent à l'œil et au doigt. Ils font n'importe quoi.
Et donc,
beaucoup d'avocats, et je regrette, beaucoup d'avocats, il y a certains qui sont très sérieux, qui sont corrects, tout n'est pas pourri. Mais il y a des avocats qui passent leur vie et leur temps à transporter des enveloppes bourrées des billets de banque pour distribuer à gauche, à droite, dans le système judiciaire. Et cela contribue justement à la destruction de notre appareil judiciaire. Les avocats ne sont plus des auxiliaires de la justice, mais ils sont devenus des destructeurs de la justice.
Et donc, professeur, la lutte contre le blanchiment des faux droits, comme disait Maître Kalala, devrait également s'inviter sur le terrain judiciaire.
Absolument, absolument. Les avocats doivent être le premier, et c'est ça leur rôle, être auxiliaire, c'est-à-dire être un élément de base, un facteur important du bon fonctionnement de la justice. Dans la pratique quotidienne, les magistrats, les juges attendent souvent que les avocats viennent devant eux avec des dossiers bien préparés, avec des règles de droit bien présentées, bien développées. Et la plupart du temps, les avocats aujourd'hui, certains bien sûr, et malheureusement un grand nombre, ne font pas leur travail correctement.
Merci.
S'ils constatent que dans tel ou tel procès, tel avocat a gagné un procès et qu'il faut faciliter son exécution, c'est la jalousie professionnelle qui fait rage dans le métier aujourd'hui. Et tout cela contribue justement à la dégradation de la situation. Et les avocats ne sont plus rigoureux, mais là, ils sont prêts à suivre leurs clients pour leur faire plaisir, et notamment pour faciliter éventuellement le blanchiment de l'argent. Donc nos barreaux à travers le pays et nos bâtonniers doivent être très rigoureux, très sévères à l'égard des avocats qui se comportent mal, qui bafouent la déontologie des avocats, qui font n'importe quoi pour gagner de l'argent, faire plaisir à leurs clients, jusqu'à faciliter le blanchiment de l'argent sale.
Alors, merci professeur. Maître Jean-Joseph Mukendi, vous êtes également un ancien bâtonnier de l'ordre des avocats. Apparemment, il y a un laxisme du côté de la corporation également.
Oui, je voudrais dire que le problème est réel, mais il n'y a pas de laxisme. Et à ce point de vue, il faut souligner la prise de position du bâtonnier national, qui a été très courageuse et très précise. Et là, je dois dire que sur le plan des autorités ordinales, il y a déjà, chaque fois qu'il y a des cas qui sont signalés, ces cas-là sont réprimés avec la rigueur. Le grand problème qu'il y a, et c'est ça tout le drame de la corruption, c'est comme on dit, on parlait tout à l'heure de la conspiration du silence, une espèce d'omerta. Puisqu'on parle, il y a pour qu'il y ait, on parle bien sûr des magistrats, mais il n'y a pas que le magistrat, il y a l'avocat, il y a aussi le corrupteur. Et donc il y a un problème de morale. Comment voulez-vous dans ce pays, les personnes qui savent qu'elles n'ont pas droit, vont persister à faire changer le cours du droit par des jugements, donc comme on dit, blanchis autrement, c'est ça? Il y a quand même donc le blanchiment n'est pas seulement de l'argent, le blanchiment du jugement. Alors, je voulais dire que au niveau du Conseil de l'Ordre des avocats, le bâtonnier l'a souligné, l'Autorité nationale l'a souligné, mais il y a déjà une décision de principe. Lorsqu'un avocat, par exemple, prend exerce des recours dilatoires, et tout simplement pour gêner l'exécution d'une décision juste, il y a donc une sanction qui peut donc être prise. Et dans ce qui a été dans l'avenir, il faut attirer l'attention sur la proposition que le bâtonnier national a faite de lui donner une plus grande action disciplinaire sur ces cas, parce que vous savez, dans ces cas de corruption, il n'est pas facile de le voir à vue d'œil. Mais lorsque cela est dénoncé, il faut qu'il y ait une autorité qui ait la possibilité de pouvoir s'instruire. Donc là, il y a aussi des mécanismes à instaurer et cela est nécessaire. Et je crois que donc le plus important, c'est la prise de conscience, comme l'a dit bien le bâtonnier national. Et je crois que de ce côté-là, nous devons aller de l'avant. Alors, j'aimerais ajouter à faire évoluer un peu le débat. En disant qu'il y a quand même, puisque nous avons quand même sur le plateau, si on parle de la réforme de la justice. Et là, il y a une réforme importante qu'il faut saluer. Lorsque je suis activiste du droit de l'homme, j'anime l'Institut de droit de l'homme, nous disons que les instruments internationaux viennent souvent au secours de notre droit national. Et là, lorsqu'il y a des problèmes de corruption, il y a moyen d'échapper, par exemple, aux problèmes internes en exerçant les mécanismes internationaux. Et à ce point de vue, je suis l'un de ceux qui ont salué l'adhésion de notre pays à l'OADA. Et je crois que l'adhésion, la ratification du traité OADA par la République démocratique du Congo pourra être un des moyens de combattre la corruption, parce que il y a moyen, notamment dans le droit des affaires, de faire évoluer une procédure non seulement sur le plan interne, mais aussi sur le plan externe.
Merci.
Mais il faut dire aussi, il y a aussi d'autres mécanismes qui sont prévus par les instruments internationaux. Il y a lieu donc de les saisir. Donc c'est pour dire, généralement, quand nous donnons les cours de droit de l'homme et les droits de déontologie aux avocats, les avocats ne doivent pas s'en tenir au droit national, il faut qu'ils puissent intégrer les instruments internationaux, Ça permet éventuellement, lorsqu'on a évoqué ces instruments internationaux, de pouvoir évoluer vers les instances supranationales et régionales ou internationales qui permettent de corriger parfois certaines erreurs de notre justice.
Maître Kalala Monampala, je rappelle que vous êtes coordonnateur de la cellule chargée de la réforme au cabinet du ministre de la Justice. Maître Jean-Joseph Mukendi a déjà commencé à aborder le processus de la réforme de la justice en RDC. Mais Maître Kalala, où en est-on à ce jour? Ça fait plusieurs années qu'on en parle.
Oui, effectivement, la réforme est une tâche qui doit amener ceux qui en sont chargés d'aller pas trop vite en besogne, mais qui doivent observer comment la justice fonctionne, quels sont les accros et quels sont les acteurs de dysfonctionnement et comment ils agissent, et puis pouvoir envisager sur le plan de la mentalité une thérapeutique de choc. Parce que si on ne le fait pas, on va retourner à la case de départ, c'est-à-dire le mauvais fonctionnement de la justice. Et ici, on est à quel niveau? Vous m'avez posé la question. Nous sommes encore au niveau de la détection du véritable endroit où il faut donner justement le coup de poing. Et ici, lorsqu'il s'agit des magistrats, je pense plus à l'exploitation de l'article 43 du statut des magistrats qui permet à ce que, lorsque le magistrat s'est permis de fixer dans son œuvre des fausses expositions, on saisit les autorités de ces magistrats qui sont prévus par l'article 43, et les magistrats sont traduits devant une commission ad hoc, laquelle commission, après examen, va plutôt faire un rapport au chef de l'État directement, sans passer par le conseil supérieur de la magistrature. De cette manière-là, par voie de plusieurs questions que l'on compose sur le sujet qui a été abordé en termes de procès, on fait vérifier les connaissances et la compétence de ce magistrat dans chaque cas et on transmet un rapport au président de la République qui en est le destinataire et l'unique destinataire et qui va prendre l'acte qui est prévu par le même article par rapport aux avocats qui sont les convoyeurs des faux droits, des fausses qualités qui seront fixées dans les œuvres des juges. Ces avocats-là doivent être poursuivis disciplinairement parce qu'il s'agit d'un manque de probité.
Merci.
Et ils dérèglent la justice. Et à ce niveau, nous sommes en train de concevoir, pour se mettre au barreau, un instrument de poursuite disciplinaire lorsque la décision intervient et qu'elle est viciée. L'avocat qui a proposé la solution viciée au juge doit être poursuivi.
Merci.
C'est au niveau des avocats.
Alors,
décision sur le plan de la cassation. Une cassation d'une décision intervient. La décision est cassée, mais les auteurs de la décision cassée ne doivent pas rester indemnes.
Donc il faudrait
ils doivent suivre le sort de la décision qui est infestée de violation de la loi, parce que la violation de la loi, comme vous le savez, c'est une violation de serment.
Voilà. Professeur Tshibangu, vous avez suivi Maître Kalala, où est-ce qu'on en est avec la réforme, le processus de la réforme de la justice congolaise? Il a dit qu'ils sont en train de détecter le véritable endroit. Il faut donner le coup de poing. Visiblement, c'est une nébuleuse difficile à détecter. Vous étiez à l'Assemblée nationale à la législature passée. Où est-ce qu'on en est au niveau des lois et autres aspects?
Oui, monsieur Alayirongo, vous savez, le problème du fonctionnement de la justice dans notre pays ressemble un peu au serpent de la légende, le serpent de la mythologie grecque. Vous tuez une tête, il y a 1000 têtes qui poussent. Vous tuez les 1000 têtes, il y a 10 000 têtes qui poussent. Et finalement, on est découragé, on baisse les bras. C'est vraiment un serpent de la mythologie grecque. Mais je vais rebondir à ce que, sur ce que le bâtonnier Moukendi vient de dire. C'est le président de la République vient de prendre, il n'y a pas longtemps, une décision stratégique juste dans l'intérêt supérieur de notre pays. C'est la décision d'adhésion de notre pays à l'OADA. C'est le président de la République qui a ratifié le traité. Et c'est une très, très, très bonne décision qui a justement un impact positif sur le fonctionnement de l'appareil judiciaire dans notre pays. Cette décision a des conséquences positives sur la réforme même de l'appareil judiciaire. Je retiens deux points. Aujourd'hui, et je le dis pour des raisons pédagogiques à l'égard des auditeurs de Radio Okapi, aujourd'hui, dans le domaine du droit des affaires, c'est-à-dire dans le domaine des droits des sociétés, du droit de la comptabilité, du droit des faillites des sociétés, du droit du commercial général, etc. Et bientôt, ça sera le droit du travail, parce qu'on aura le droit du travail, le code du travail de l'OADA, etc. Eh bien, dans toutes ces matières-là, eh bien, la justice congolaise fonctionne jusqu'au niveau seulement des cours d'appel. La Cour suprême de justice ne peut plus examiner les pourvois en cassation dans ces matières-là. Désormais, c'est la Cour de justice de l'OADA qui siège à Abidjan qui doit examiner les arrêts rendus par les cours d'appel de la RDC dans toutes ces branches du droit qu'on appelle le droit des affaires. Et il y a 9 juges internationaux qui viennent de plusieurs pays africains qui siègent à Abidjan pour examiner les arrêts rendus par les cours d'appel de la RDC dans matière qui relève du droit des affaires. Et donc, ça ne sert à rien pour les Congolais, et j'insiste, à l'égard des auditeurs de Radio Okapi, ça ne sert à rien d'amener de l'argent, des dollars, des chèvres, des casiers de guerre aux juges congolais pour dire oui, prenez l'argent, changez la décision, prononcez à ma faveur. C'est une perte de temps et d'argent. Parce que la décision qui sera rendue par une cour d'appel, eh bien, ce sont des juges internationaux à Abidjan qui vont l'examiner. Si c'est une bonne décision, ok. Si elle est mauvaise, on casse la décision. Et on casse la décision, la Cour de justice d'Abidjan va réexaminer l'affaire pour prendre une nouvelle décision pour remplacer la décision qui était rendue par les cours d'appel de la RDC. Et j'ajoute que pour le pourvoi en cassation à Abidjan, tous les avocats, sans exception, peuvent introduire le pourvoi en cassation et le signer au nom de leurs clients. Merci. Ce n'est pas réservé seulement aux avocats après la Cour suprême de justice, comme le bâtonnier Moukendi, bon, qui va peut-être rater un peu la clientèle, mais malheureusement, c'est ça les conséquences de cette adhésion à l'OADA.
Merci,
eh bien,
professeur.
Tous les avocats congolais peuvent introduire des pourvois en cassation au nom de leurs clients à Abidjan.
Merci, professeur.
Et donc, c'est une décision majeure, une très bonne décision qui a été prise par le gouvernement, un peu par le président de la République, qui a des conséquences positives sur le fonctionnement de l'appareil judiciaire de notre pays.
Merci,
je ne vois pas un Congolais qui va aller à Abidjan pour aller chercher 9 juges internationaux pour les corrompre, pour qu'ils changent la décision, qu'ils appellent la décision à sa faveur.
Merci,
donc
professeur.
Il faut vraiment qu'on travaille, que le gouvernement fasse tout pour que les nouvelles législations qui sont maintenant en vigueur dans notre pays, dans le cadre de la OADA, soient connues de tous les magistrats, de tous les praticiens du droit. Ce sera vraiment une révolution.
Merci.
C'est même un big bang. C'est une grande réforme.
Merci, professeur.
Je crois qu'on n'en parle pas assez. C'est une très grande réforme. Et j'espère que si tout marche bien, dans les prochaines années, je crois que nous allons essayer d'avoir un peu confiance dans notre système judiciaire.
Merci, professeur. Maître Jean-Joseph Moukendi, je rappelle que vous êtes avocat prié à la Cour suprême de justice, également ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats. Signalez en même temps qu'il nous reste moins de 5 minutes pour terminer cette émission. Des auditeurs nous écrivent. Sephora Mouloumé de Mbujimaï, au Kassai oriental. La réforme de la justice va de pair avec l'amélioration des conditions socio-professionnelles des acteurs de la justice, dont notamment les magistrats. Tant que ces derniers seront dans des conditions précaires, la réforme de la justice au Congo sera un concept creux. Patient de Goma en Nord Kivu, tant qu'il n'y aura pas un bon traitement des magistrats en termes de salaire, il ne faut rien attendre de soi-disant réforme de l'appareil judiciaire. Comment expliquer les 3 pouvoirs égaliens consacrés par notre Constitution, que c'est le pouvoir judiciaire qui est à la merci des 2 autres en termes de budget, Maître Moukendi?
Oui, je voudrais d'abord assurer mon confrère, le professeur Kalala, que la clientèle que je pourrais perdre ici, ça serait la mauvaise clientèle, puisque la bonne clientèle, je l'accompagnerai aussi à l'OADA. Je suis parfaitement d'accord avec le traité OADA. Nous avons été parmi d'ailleurs les promoteurs à l'Institut des droits de l'homme, nous nous en réjouissons. Mais en venant donc sur le problème de fond, la thérapeutique, je pense, nous avons parlé des instruments internationaux, mais il y a eu aussi des initiatives qui ont été prises par le ministère de la Justice, et notamment la réforme des dispositions relatives à la prise à partie contre les magistrats. Là-dessus, je pense qu'il y a une prise de position de la conférence des bâtonniers qui s'était réunie à Lubumbashi en avril 2010, et nous avions estimé que la proposition telle qu'elle était faite violait un peu les droits de la défense des magistrats. En ceci que la mesure était tellement radicale, il y a prise à partie, le temps nous manque, la prise à partie c'est la procédure par laquelle une personne qui suspecte un magistrat qui a rendu une décision par partialité peut poursuivre ce magistrat individuellement devant la Cour suprême de justice, avec pour conséquence que le magistrat est sanctionné et la décision est annulée. Alors la réforme proposée était que dès qu'il y a une accusation de ce sens, le magistrat, et qu'il y a une décision, le magistrat est révoqué. La conséquence a été négative. Les magistrats se sont ligués. Du coup, même quand il y a une décision possible, passible d'une prise à partie favorable, il y a un blocage, et même il y a même des mécanismes qui ont été pris pour retarder.
Maître Moukine. Mais
c'est parce qu'on n'a pas respecté les droits de la défense. Alors, il y a lieu donc d'améliorer cette réforme-là. Peut-être ça pourra faire l'objet d'une autre émission.
Oui.
Mais j'allais dire globalement qu'il y a donc un effort à faire. De notre côté, le barreau,
merci,
il y a beaucoup à faire, merci, du côté des magistrats et du côté du public. Et les réformes, comme celle de l'OADA, doivent être encouragées.
Merci, Maître Moukiendi. Professeur Chibangu, il faut déjà conclure. Qu'est-ce que les auditeurs et internautes qui vous suivent peuvent retenir?
Oui, quelque chose. Pour les auditeurs de Radio Okapi, j'insiste sur la réforme de l'OADA. Il faut vraiment qu'il y ait une grande vulgarisation, que les magistrats, les avocats, les enseignants du droit essaient de vulgariser le nouveau droit de l'OADA. Il est très bien conçu, très simple, et si on l'applique bien, eh bien, on va régler beaucoup de problèmes déjà. Parce que tout cela, ça va de pair même avec la réforme de l'USARIA. Nous avons des huissiers aujourd'hui qui sont des fonctionnaires de l'État, qui touchent l'argent, la corruption, et qui ne font même pas le travail correctement. Et donc, si avec l'adhésion à l'OADA, il faut maintenant que les huissiers deviennent des indépendants, qui vont échapper à l'État et qui vont faire le travail correctement. Et donc, l'adhésion à l'OADA a des effets d'entraînement très positifs pour le fonctionnement de l'appareil judiciaire, notamment la lutte contre la corruption et la conscientisation des magistrats, du public et des avocats.
Merci, voilà, professeur. Maître Kalala Mwenampala, il y a Robert Abaina de Bougna en province orientale qui dit: que préconise le procureur pour arrêter ces malfrats qui multiplient des billets de banque avec la complicité de certains auxiliaires de justice? Il y a des cas d'enrichissement sans cause qui ont été évoqués dans la presse. Le procureur général de la République ne devrait-il pas s'en saisir d'office en guise de conclusion? Maître Kalala, nous l'avons perdu. Maître Joseph, Jean-Joseph Moukendi, un mot en guise de conclusion.
Oui, un mot en guise de conclusion, c'est que dans tout ce qu'on fait comme réforme, il est aussi bon de demander aux autorités d'avoir la justice pour les magistrats, notamment dans les promotions. C'est vrai qu'il y a des magistrats corrompus, mais j'ai dit que les magistrats qui sont bons sont plus nombreux que les corrompus, mais souvent ils ne sont pas encouragés. Vous verrez dans les promotions que ce sont ceux-là qui sont souvent décriés, qui ont des grades supérieurs,
merci,
tandis que ceux qui font leur travail bien, parfois dans les coins reculés, ils ne reçoivent rien. Donc
merci,
il est bon, bien sûr, de décrier les magistrats, mais il faut aussi la justice pour tout le monde, la justice aussi pour les magistrats,
merci,
et pour les bons, ils sont plus nombreux que ceux qui sont mauvais.
Merci au professeur Chibangu Kalala, maître Jean-Joseph Moukendi Wamulumba, maître Kalala Mwenampala, qui étaient nos invités dans cette émission. Merci également à Guy Maté, Samuel Kacha, qui ont travaillé sous la supervision de Pelekipela. Guy Matoundou et Patrick Yassongwa étaient à la technique, à la présentation, Alain Roumouchige. Au revoir.